le roi Charles VII à Reims le 17 juillet. Le 25 juin, elle a envoyé une missive au duc de Bourgogne pour l'y inviter. Il n'est pas venu. Elle lui écrit alors une nouvelle lettre pour l'inciter à la paix. En voici quelques mots. « Ô et redouté prince, duc de Bourgogne, Jeanne la Pucelle vous requiert, de par le roi du ciel, mon souverain seigneur, que le roi de France et vous fassiez bonne paix, ferme et qui dure longtemps. » Cette lettre, loin d'avoir l'effet escompté, déplaît à Philippe le Bon, qui s'y voit attaqué moralement. Son alliance avec les Anglais n'est pas encore terminée. En janvier 1430, Philippe le Bon se remarie en grande pompe avec Isabelle de Portugal. Il a 33 ans et il est grand temps pour lui de concevoir un héritier légitime, car il a déjà de nombreux bâtards étant assez porté sur les plaisirs de la chair. Autre avantage de ce mariage, la princesse est liée à la famille d'Angleterre étant l'arrière-petite-fille du roi Édouard III. Voilà de quoi rassurer ses alliés. Le samedi 7 janvier 1430, à l'Écluse, la fête commence. Et elle est d'un faste sans pareil. Le pays est en guerre et son peuple souffre, mais le duc a un rang à tenir. Vêtu de velours noir et paré de pierreries, Philippe le Bon ne déparait pas aux côtés de son épouse qu'il a comblée de joyaux. Les festivités durent une semaine et sont ponctuées de festins, de joutes, de balles. Pour faire d'une pierre deux coups, c'est lors de leur mariage au faste sans pareil que Philippe le Bon crée l'ordre de chevalier de la Toison d'Or. Les chevaliers élus par le duc représentent alors l'élite de la noblesse de Bourgogne. Le 23 mai de la même année, les troupes bourguignonnes capturent Jeanne d'Arc à Compiègne. Philippe le Bon la livre au duc de Bedford. Un an après sa capture, Jeanne d'Arc, condamnée pour hérésie, est brûlée vive à Rouen. Mais le vent a tourné et Charles VII de France gagne en puissance. Pour Philippe le Bon, il est temps de changer d'allégeance. En 1435, des discussions internationales pour la paix sont engagées à Arras. Elles durent 3 mois. Des représentants d'Angleterre, de Portugal, de Pologne, d'Écosse et de Sicile sont présents. L'occasion de bien s'amuser car les festivités luxueuses n'en finissent pas. S'il veut faire la paix avec Charles VII de France, Philippe le Bon rechigne toutefois à trahir son alliance avec les Anglais. Surtout qu'il a signé les accords d'Amiens en 1423 qui lui interdisent de signer une paix avec le dauphin sans l'accord du roi d'Angleterre. Ces discussions visent donc à aboutir à un accord tripartite. Mais les Anglais refusent de revenir sur le traité de Troyes et se retirent des négociations. Philippe le Bon hésite. Il demande conseil, notamment au chevalier de son ordre de la Toison d'Or. Est-ce honorable de trahir ainsi son serment vers les Anglais? Les avis sont partagés. Mais ces terres ont été ravagées par les conflits qui n'ont que trop duré. Ils n'en tirent plus rien économiquement. Et les Anglais ne défendent que leurs terres du Nord et Paris. Qui plus est, la mort d'Anne de Bourgogne, en 1432, a scellé le glas de leur alliance. Elle était la sœur de Philippe le Bon et l'épouse du duc de Bedford. Ce mariage qui faisait d'eux des frères est donc brisé. Et le régent anglais a eu l'outrecuidance de se remarier très vite. C'est décidé. Philippe le Bon signe le traité le 20 septembre 1435. Surtout que des efforts ont été faits par l'autre partie. Charles VII reconnaît en effet que le meurtre de Jean sans peur était une erreur. Et des indemnisations nombreuses sont prévues. Est également écrit que Philippe le Bon peut conserver ses territoires et qu'il est dispensé de l'hommage féodal à l'égard du roi, c'est-à-dire qu'il ne lui doit ni impôts ni services. En somme, il n'est plus vraiment son vassal. La cérémonie religieuse qui scelle leur réconciliation a lieu en l'abbatiale de Saint-Va. Et une chose est certaine, il y a foule. L'heure est à la paix. Surtout que depuis 1433, enfin, le duc de Bourgogne a un héritier, le futur Charles le Téméraire, qu'il ne tarde pas à fiancer en 1448 à la fille de Charles VII, Catherine de France, pour consolider leur alliance. Philippe le Bon continue d'étendre son territoire jusqu'à la fin de sa vie en 1467. Au sommet de sa puissance, il maintient son pouvoir malgré les révoltes qui éclatent sur ses terres. Quoi qu'il en soit, l'état bourguignon qu'il gouverne n'est pas un royaume. Le prudent Philippe le Bon a refusé d'être roi. Il a préféré être le plus puissant des princes.
Europe 1, 15h-16h,
au cœur de l'histoire.
Bonjour Bertrand Schnerb, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci de m'avoir invité à parler sur Europe 1.
Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille et vice-président du Centre européen d'études bourguignonnes. Vous publiez « Philippe le Bon, le prince qui ne voulait pas être roi », une biographie qui vient tout juste de paraître aux éditions Talendier. Qu'avait-il à perdre en acceptant la régence ?
Je pense que la régence que lui propose le duc de Bedford après la mort d'Henri V en 1422, il la voit comme un fardeau probablement et une mauvaise affaire politique. Parce que Philippe a été poussé par les circonstances, il a dû s'allier aux Anglais contre ses adversaires armagnacs, dauphinois, ceux qui ont tué son père. Mais cette alliance est pour lui un moindre mal. Un de ses conseillers dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il ne tient donc pas à s'engager trop loin dans le système de la double monarchie qui se met en place, une double monarchie de France et d'Angleterre, mais c'est un système qu'il soutiendra pendant 15 ans, certes, mais tout en menant une politique autonome. Par la suite, c'est tout à fait significatif, il se dérobe quand on lui propose voir aussi l'ordre de la Jarretière.
Bertrand Schnerb, quelques mots du portrait moral de Philippe le Bon. Dans la biographie que vous lui consacrez, qui paraît aux éditions Talendier, vous écrivez qu'il a suscité enthousiasme et hostilité, fidélité et haine, admiration et détestation. Était-il alors si bon que cela ? Pourrions-nous esquisser son portrait moral avec vous ?
Je crois que c'est un prince qui a une haute conscience de son statut. Il est issu de la maison de France, même si la maison de Bourgogne n'est pas la première en dignité dans la maison de France, mais il est issu donc de la maison royale, et il s'est construit un personnage à la fois impressionnant, physiquement et moralement impressionnant, mais aussi affable. C'est-à-dire qu'il impressionne par son attitude, son comportement, même son physique princier, mais il est aussi, le cas échéant, chaleureux, plein d'humour, il y a des traits d'humour de lui qui sont tout à fait remarquables. Et donc c'est un prince paradoxal. C'est un sensuel, mais aussi un prince catholique qui pratique une véritable ascèse personnelle. Il est appelé le bon duc de son vivant, on l'appelle le bon duc, notre bon duc, mais il peut se montrer implacable, notamment dans la répression, par exemple, de la révolte des Gantois dans les années 1451-1453. Je crois que moralement, c'est un prince plein de contradictions et paradoxal, d'où la différence des réactions qu'il a pu susciter.
En France, quelles ont été les différentes phases de la postérité de l'homme qui, quand même, reste pour nous celui qui a livré Jeanne d'Arc aux Anglais, hein ?
Je crois que c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'en France, d'une manière générale, pour parler de Philippe le Bon et de ses prédécesseurs et de son successeur, l'historiographie en France n'est pas tendre avec les ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi, on dit qu'il a puisé dans le trésor royal pour avoir cette vie fastueuse et cette cour remarquable. Jean sans peur, non, c'est celui qui a provoqué la guerre civile. Charles le Téméraire, c'est celui qui a défié la royauté française. Philippe le Bon, dans ce tableau, c'est le prince qui a pactisé avec les Anglais, en effet, et qui porte une lourde responsabilité dans la destinée tragique de Jeanne d'Arc. On lui reproche aussi son faste, sa vie dissolue, hein. Il y a eu des jugements moraux aussi sur ses nombreux bâtards. C'est une vision orientée, parfois un peu caricaturale. Je crois que les ducs de Bourgogne, dans l'historiographie française, sont un peu des personnages à la marge. Ils n'entrent pas dans le cadre d'une histoire, je dirais, centralisatrice et un peu jacobine. C'est pour ça que Philippe le Bon n'a pas forcément une très très bonne image dans l'historiographie française.
Mais au fond, c'est le chroniqueur Georges Chastelain, que j'ai mentionné plusieurs fois dans mon récit, qui a offert à Philippe le Bon cette image positive. Le duc de Bourgogne l'avait nommé indiciaire, c'est-à-dire historiographe officiel. Au fond, quel était concrètement son rôle ?
Alors, Georges Chastelain, c'est un homme de la cour de Bourgogne. Il est noble par sa mère, mais pas par son père, ce qui est un drame pour lui. Il est chroniqueur. Aussi, et en 1455, Philippe le Bon en fait son indiciaire, donc c'est effectivement son chroniqueur officiel. C'est un moment très important pour Philippe le Bon. En 1455, le duc est plongé dans ses projets de croisade et il veut, au fond, bâtir une sorte de monument historiographique, non seulement à la maison de Bourgogne, mais à sa propre personne. Donc il veut une chronique officielle de la maison de Bourgogne, un peu comparable aux grandes chroniques de France. Et Chastelain va se lancer dans ce travail, qui va l'épuiser d'ailleurs, mais c'est un esprit indépendant, Chastelain. C'est-à-dire qu'en fait, il sait manier le compliment, il sait manier la flatterie, mais il a aussi un esprit critique et il a pu critiquer la personnalité et l'action de son maître. C'est-à-dire que c'est quand même assez nuancé. C'est pas une chronique uniquement laudative.
Il existe un portrait connu de Philippe le Bon, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, et qu'on a longtemps attribué à Roger de la Pasture. Il s'agit du portrait qui figure en couverture de votre livre. Le duc de Bourgogne est vêtu de noir, il porte un chaperon. Quelle image l'artiste voulait-il donner du souverain? Et quelle image Philippe le Bon veut-il donner de lui-même, surtout?
Oui, l'artiste, évidemment, suit les indications du commanditaire. Alors, c'est une copie d'un portrait, effectivement, peint par Roger van der Weyden, Roger de la Pasture. C'est une sorte de portrait officiel qu'on pouvait mettre dans les châteaux, et on faisait des galeries de portraits de princes. Ici, c'est, je dirais oui, une sorte de portrait officiel qui renvoie l'image d'un prince catholique austère. Donc, il y a la couleur noire de son chaperon et de son vêtement. Il y a cette petite croix qu'il porte au col. Donc, austérité, évidemment, la foi catholique, mais aussi un homme assuré, un homme de gouvernement. On voit qu'il tient un parchemin. On peut imaginer que c'est un mandement, un ordre du duc. Et puis, évidemment, c'est le chevalier fondateur de l'ordre de la Toison d'Or. Et ce qui frappe sur ce tableau, sur fond noir, à l'ordre de la Toison d'Or, le collier de l'ordre de la Toison d'Or. Donc, je pense que c'est ça. Le prince catholique, austère, mais assuré, homme de gouvernement et le souverain maître de l'ordre de la Toison d'Or.
Bertrand Sterb, Philippe le Bon représente la seconde maison de Bourgogne. Quelle est la puissance du duché de Bourgogne au moment où il en hérite? Est-ce que vous pourriez nous en rappeler les limites géographiques?
Alors, lorsqu'il devient duc de Bourgogne, à la mort de son père en 1419, le duché de Bourgogne n'est qu'un des éléments de l'ensemble territorial dont il hérite. Parce qu'en fait, il est effectivement duc de Bourgogne, mais il est aussi comte palatin de Bourgogne, puisque le comté de Bourgogne, c'est-à-dire la Franche-Comté, fait aussi partie de son héritage. Et c'est une terre d'empire. Il est aussi comte de Flandre, c'est un des fleurons de la couronne, puisqu'en fait, c'est la principauté la plus prospère. Il est comte d'Artois. Et il possède aussi des seigneuries enclavées, Malines qui se trouve dans le Brabant et Salins qui est enclavé dans le comté de Bourgogne. Et puis il a de fortes positions sur la Somme, il contrôle les villes de la Somme. Et donc en 1419, il a entre les mains un ensemble territorial tout à fait imposant. Et lui-même, à partir de 1421, ben, comme on le sait, accroît considérablement cet ensemble territorial jusqu'à mettre la main pratiquement sur l'ensemble des Pays-Bas bourguignons.
Philippe le Bon, après l'assassinat de son père, va donc s'allier aux Anglais qui revendiquent la couronne de France et affrontent bientôt les partisans du dauphin, le futur Charles VII. C'est une aubaine. Que représente pour l'Angleterre cette alliance avec le duc de Bourgogne?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roi Henri V, avant même d'être roi, quand il était encore prince de Galles, s'informait parfaitement de la situation politique du royaume de France. La cour d'Angleterre savait très bien qu'il y avait guerre civile. D'ailleurs, les Anglais étaient partie prenante dans cette guerre civile, en fournissant des troupes aux deux parties. Et les Anglais sont parfaitement conscients des divisions, des rivalités. Et Henri V, en 1419, va tirer parti de ces rivalités princières, de cette maudite guerre qui déchire le royaume de France. Il avait une nette sympathie pour la maison de Bourgogne. Les Anglais sont plutôt enclins à s'allier aux Bourguignons, parce qu'il y a des liens économiques entre Angleterre et Flandre, possession du duc de Bourgogne. Mais Henri V était un homme politique avisé, sagace et tout à fait pragmatique, et si la situation s'y était prêtée, il faut bien comprendre qu'il se serait allié au dauphin Charles, au futur Charles VII, plutôt qu'à Philippe le Bon. Cette possibilité que l'historiographie française a un peu évacué, cette possibilité a été envisagée non seulement par Henri V, mais par le dauphin Charles, le futur Charles VII lui-même.
Vous écrivez que Philippe le Bon fait de la vengeance l'un des thèmes de sa propagande politique. Nous sommes au XVe siècle, quels sont alors les outils de propagande qui sont utilisés par les puissants?
La propagande passe par toute une série d'instruments. La culture visuelle, par exemple, vous parliez du noir, des vêtements, des étendards, des tentures. Cela faisait partie de cette culture visuelle. On comprend très bien pourquoi le duc de Bourgogne a des vêtements noirs et utilise le noir comme couleur emblématique. Il rappelle l'assassinat de son père. C'est un instrument de propagande. Ça passe aussi par des discours, par des lectures de manifestes en place publique, par des cris publics. Il y a une diffusion d'informations aussi de cette manière-là. Et puis, on utilise aussi le cérémonial, les funérailles de Jean sans peur en 1419 à Arras, ou son enterrement ensuite à la Chartreuse de Champmolle en 1420, avait aussi une signification politique. Il y a des cérémonies aussi, par exemple, lorsque Charles VII, accompagné de Jeanne d'Arc, s'approche de Paris à l'été 1429, dans Paris, Bedford et les Bourguignons font organiser une grande cérémonie au cours de laquelle on va lire le récit de l'assassinat de Jean sans peur pour réchauffer le loyalisme bourguignon des Parisiens, et on leur fait prêter serment. En ce qui concerne Philippe le Bon, il utilise le luxe, la richesse, l'ostentation aussi, parce que le duc qui montre sa richesse, qui montre par le luxe de ses vêtements, par le luxe de ses chevaux, par l'importance de sa suite, sa richesse, c'est une manière de convaincre. On rassure les partisans, on intimide les opposants. Donc il y a toute une série de leviers pour effectivement convaincre les populations, convaincre les élites aussi.
Il est connu, Philippe le Bon, comme le promoteur d'un certain idéal chevaleresque. D'abord, quel est cet idéal au XVe siècle et quelle valeur chevaleresque Philippe le Bon incarne-t-il pour ses contemporains ?
Alors, les valeurs chevaleresques au XVe siècle, elles s'enracinent dans une tradition qui remonte au XIe, XIIe siècle. Donc ce sont toujours les mêmes valeurs et c'est toujours le même idéal chevaleresque. Il y a encore au XVe siècle cette volonté de l'exploit individuel, du courage, de la vaillance. Et Philippe le Bon va accroître la promotion de l'idéal chevaleresque au XVe siècle, notamment par la création de l'ordre de la Toison d'Or, dont les statuts reflètent exactement les valeurs traditionnelles de la chevalerie. Alors quelles sont-elles ? Le service de l'Église, la magnanimité, la vaillance, la largesse aussi, pour être généreux. Le duc va aussi mettre en avant l'idéal de croisade. Alors la seule chose, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, l'idéal chevaleresque est utilisé dans le cadre du développement des États. Et le chevalier doit évidemment pratiquer les valeurs chevaleresques, être dans son comportement conforme à l'idéal, mais tout cela, il doit le mettre au service du prince et le mettre au service de l'État princier. C'est peut-être ça la grande nouveauté, finalement, dans le développement de l'idéal chevaleresque à la fin du Moyen-Âge.
Philippe le Bon meurt en 1467, son fils Charles le Téméraire lui succède. Quels seront ses rapports avec le roi de France ? Malgré la paix, on continue à se méfier des Bourguignons en France ?
Ah oui, les Bourguignons sont encore vus comme des traîtres, même après le traité de 1435. Et les relations déjà entre Philippe le Bon et Charles VII, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, ces relations étaient exécrables. Et malgré quelques tentatives de rapprochement, d'une manière générale, les relations diplomatiques entre le roi de France et le duc de Bourgogne ont été extrêmement mauvaises. Alors, Philippe le Bon avait accueilli à sa cour le dauphin Louis, le futur Louis XI, qui était en conflit avec son père, ce qui n'a pas arrangé les choses avec Charles VII, évidemment. Et Philippe le Bon espérait que, devenu roi, Louis XI allait finalement montrer toute sa reconnaissance à l'égard des Bourguignons. Ça n'a pas été le cas du tout, parce que Louis XI n'avait absolument pas envie d'avoir un duc de Bourgogne qui le mette en tutelle. Et très rapidement, eh bien, les relations avec le roi de France, Louis XI, se sont détériorées. Et cette détérioration n'a fait que croître à l'époque de Charles le Téméraire jusqu'à déboucher sur une guerre ouverte. Le vieux conflit entre la maison de France et la maison de Bourgogne n'a pas été adouci ou calmé par la mort de Philippe le Bon et l'avènement de Charles le Téméraire, bien au contraire.
Et qui sera le dernier duc de Bourgogne ?
Ah, alors c'est une question qui nécessite plusieurs réponses, dirais-je, parce que on a une vision française. Nous, une vision française, le dernier duc de Bourgogne, c'est Charles le Téméraire. Il meurt à la bataille de Nancy et l'État bourguignon s'effondre. Mais en réalité, il faut bien voir que Charles le Téméraire avait une fille, Marie de Bourgogne, qui a épousé Maximilien de Habsbourg. Et les Habsbourg, à partir de Maximilien, recueillent tout l'héritage bourguignon et portent le titre de duc de Bourgogne. Et même si les ambitions des Habsbourg deviennent planétaires avec Charles Quint, Charles Quint lui-même revendique son héritage bourguignon. Vous savez, il porte le titre de duc de Bourgogne, il a la toison d'or, et on sait que son livre de chevet, c'était le chevalier délibéré d'Olivier de la Marche, Olivier de la Marche qui a été un serviteur de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, et qui est une sorte de conservateur de la mémoire bourguignonne. Ce fait qu'au fond, le dernier duc de Bourgogne, ce serait peut-être Alphonse XIII d'Espagne, qui, je crois, portait encore le titre de duc de Bourgogne, et qui ont, enfin, C'est pas à vous que j'apprendrai que les rois d'Espagne décernent toujours la toison d'or.
Exactement. Les Habsbourg, comme les Bourbons d'Espagne, décernent la toison d'or, qui est sans doute l'un des ordres de chevalerie les plus prestigieux au monde. Bref, Philippe le Bon est une figure importante de la phase finale de la guerre de Cent Ans. Mais quelle est sa postérité côté anglais? Au fond, quelle place Philippe le Bon a dans l'histoire de la guerre de Cent Ans en Angleterre?
Alors, à l'époque du changement, enfin de son retournement de 1435, il a été vu comme un traître, comme un prince de couardise, le roi des traîtres. Enfin bon, il y a cet aspect des choses du prince qui a trahi après le traité d'Arras. Cela étant, son intervention dans la guerre des Deux Roses du côté de la maison d'York a fait que l'image a cette adouci. Et par la suite, il y a une vision qui n'est pas forcément négative. Je prends comme exemple Henri V de Shakespeare, où le duc de Bourgogne intervient, c'est Philippe le Bon, hein, au moment du traité de Troyes, comme un prince qui appelle à la paix entre les deux royaumes. Donc, chez Shakespeare, le duc de Bourgogne n'est pas forcément un personnage négatif. Par la suite, les historiens anglais se sont évidemment beaucoup intéressés à cette question de l'alliance anglo-bourguignonne, en déplorant évidemment le traité d'Arras. Je pense quand même que en Grande-Bretagne, Philippe le Bon est aujourd'hui un prince bien connu, grâce notamment aux travaux de Richard Vaughan, parce qu'une des meilleures biographies, des meilleures monographies sur Philippe le Bon est due à un historien britannique, le professeur Richard Vaughan.
Eh bien, merci beaucoup, Bertrand Schnerb, de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire de Philippe le Bon, le prince qui a refusé d'être roi. Et je rappelle que votre livre, Philippe le Bon, le prince qui ne voulait pas être roi, vient tout juste de paraître aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Retrouvez au cœur de l'histoire ce week-end avec Virginie Giraud qui, aujourd'hui samedi, donc nous racontera la véritable histoire des gladiateurs. Et puis dimanche, elle retracera le parcours d'Albert Roche, le soldat le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud, ce sera de 15h à 16h sur Europe 1. Dans un instant, redécouvrez des témoignages de la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Mais pour le moment, musique avec un ancien succès de Marc Lavoine, revisité à l'occasion de la sortie de son album Revolver. Qu'est-ce que t'es belle, version électro-symphonique, mais toujours en duo avec Catherine Ringer.
Tu sais que je ne sais pas. me sens pas belle.
Qu'est-ce que t'es belle.
Tu crois?
Qu'est-ce que t'es belle, Marc Lavoine et Catherine Ringer dans cette version 2024. Marc Lavoine qui sera d'ailleurs en tournée dans toute la France à partir du printemps 2025. Bonne nuit avec nous sur Europe 1 et avec Olivier Delacroix qui est aux commandes de la Libre Antenne du lundi au jeudi de 22h45 jusqu'à 1h. Donc 22h45, c'est juste après les années top 50 d'Omeline Roche, hein, je le rappelle au passage. Et donc, la nuit, eh bien on redécouvre aussi des témoignages entendus notamment dans la semaine. Pour joindre l'équipe de la Libre Antenne, je vous redonne le numéro 01 80 20 39 21 qui correspond évidemment au numéro d'Europe 1. Du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler.
Bonsoir Elvire.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Elvire?
Je suis à Paris.
Vous allez nous parler d'une petite fille multidis, qui est votre petite fille.
Oui, j'ai une petite fille donc qui est, comme on dit, dans le jargon multidis, donc elle a 4 troubles 10.
Oui.
Elle est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et elle a une dyspraxie aussi.
Et vous allez nous parler de l'école aussi, hein, puisque vous savez que c'est un sujet que nous traitons souvent sur cette libre antenne. Et puis, bon, voilà, je connais très bien ce sujet. Ce qui pose beaucoup de problèmes dans le parcours, bien évidemment, de ces enfants, mais aussi, j'ai envie de dire, un chemin du combattant, un véritable chemin du combattant pour les parents. Dans les débuts, en fait, vous avez remarqué quelque chose qui dysfonctionnait chez votre enfant?
Oui, assez petite, finalement, je trouvais qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient un peu ou qui mettaient la puce à l'oreille. Même au-delà de la confusion des B et des D, qui peut être assez classique, même chez des enfants qui ne présentent pas des troubles des apprentissages. Mais c'était assez beau d'ailleurs, parce que finalement, elle le fait encore, mais elle mélange des mots, et donc elle crée des mots, et ça dit une certaine poésie, mais je me disais, c'est quand même bizarre qu'elle crée autant de mots comme ça, et puis avec une... elle leur donnait un sens, c'était un sens qui était correct dans son esprit, et quand elle mélangeait ses mots, il y avait ça, et puis elle oubliait beaucoup de choses. Elle oubliait, voilà, j'ai des enfants qui peuvent connaître l'alphabet, puis un jour ils vont plus trop savoir, ou ils savent les jours de la semaine, et puis après ils savent plus. Donc comme j'avais lu plein de trucs avant d'être maman, plein de livres plutôt, je me suis dit c'est bizarre, normalement dans tout ce que j'avais lu, on nous disait que les enfants avaient des périodes dites sensibles, et que donc ce qu'ils avaient acquis, ben, c'était pour la vie.
Oui.
Donc, je comprenais pas trop, et finalement, c'est probablement parce que j'ai beaucoup lu enceinte, que j'ai eu la puce à l'oreille. Je pense que je l'aurais eu moins, plus tardivement, sinon.
Vous l'auriez eu plus tardivement, vous pensez?
Ouais, je pense que j'aurais eu un peu plus tard, parce que comme c'est en fait, c'est des troubles pour elle, ce qu'elle a en majeur, c'est vraiment la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. On s'en rend compte vraiment quand ils sont à l'école, quand ils sont confrontés aux apprentissages. Alors que, elle a une dyspraxie, donc c'est qu'elle a du mal à nouer ses lacets, elle a du mal à fermer son manteau, elle y arrive d'ailleurs toujours très difficilement, alors qu'elle va avoir 10 ans.
Oui.
Donc ça, on c'est des enfants extrêmement maladroits qui ne savent pas ouvrir un pot de yaourt, qui n'arrivent pas à couper leur viande. Elle, c'est des choses des actions qu'elle réussit à faire, donc qui sont automatisées. C'est maintenant que la dyspraxie apparaît un petit peu dans les tâches d'écriture. Donc je pense que oui, je m'en serais rendu compte plus tardivement si j'avais moins lu, parce que je me serais dit ça va venir. Et puis il y a eu la période du Covid, donc les moments où je commence à avoir des doutes, c'est pendant le Covid, et j'aurais tout mis à mon avis sur le compte du Covid, plus sans trop me poser de questions.
Elle n'avait pas de problème par rapport au textile, à la douceur du textile non plus?
Oui, c'est marrant que vous disiez ça, parce que effectivement, même aujourd'hui, il y a des vêtements qu'elle ne peut pas porter. Pas du tout, des chaussettes en particulier qu'elle ne peut pas porter.
Oui.
Et elle a une hypersensibilité, effectivement. Elle est hypersensible. Et même dans la manière de... dans le vêtement, il y a des vêtements qu'elle ne peut pas mettre. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de l'habiller. Enfin, je vais avec elle maintenant, mais souvent, je lui dis ça, tu vas le mettre ou pas, ça gratte. Et beaucoup de choses la grattent.
Beaucoup de choses, la gratte, oui. Alors, il y a toute cette période avant l'école, on va dire, hein, parce que donc vous remarquez avant la petite section tout ça. Quand elle allait au parc, par exemple, est-ce que vous aviez remarqué qu'elle tombait souvent, vous voyez, en courant, qu'elle était un peu maladroite?
Ouais, ce qui est un marqueur assez fort, notamment sur de la dyspraxie. Non, elle, au contraire, c'est une enfant très en avance sur plein de choses. Mm-hmm. Et elle a marché très tôt, très bien, très vite. Donc elle avait pas ça. C'est pour ça que c'est vraiment arrivé en moyenne section de maternelle. Mm-hmm. C'est quand même bizarre. Donc dans les apprentissages de l'école. Et après, c'est une enfant qui contourne beaucoup et qui a beaucoup compensé et qui compense encore beaucoup et qui contourne beaucoup. Donc ils font un peu exprès, ils ont plein d'astuces pour cacher quand ils peuvent.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a encore. Alors, il y a l'entrée à l'école. L'entrée à l'école, parce que vous allez nous parler de l'école aussi. Cette école française, si en retard, malheureusement, totalement à la bourre, je dirais, par rapport à malheureusement à plein de pays. Européens qui ont, eux, fait les efforts depuis d'apprendre un peu à connaître ces problématiques-là. Nous, on est totalement largués, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment une problématique en France terrible.
Oui. Moi, je vous rejoins parce que, déjà, quand même, c'est deux élèves par classe, hein. Que sur des troubles 10, donc je parle même pas des troubles autistiques ou des troubles de l'attention avec hyperactivité, donc c'est beaucoup. Les volumes, ils sont importants, c'est pas du tout anodin. Deux élèves par classe, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'enfants qui sont concernés. Et donc on est dans une... On peut pas, même si on n'avait qu'un, j'ai envie de dire, de toute façon, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et en plus, là où je reviens, c'est-à-dire que l'État, le gouvernement, ne cesse de dire que l'école est inclusive. Donc, on prend tous les enfants avec leurs spécificités et c'est à l'école d'adapter tout. Factuellement, c'est pas ça qui se passe. Déjà, les enseignants sont pas formés et la manière de penser de l'école, de l'institution classique, hein, qu'elle soit publique ou privée, c'est que sur l'écrit. Donc la compétence, la valeur de l'enfant, ce qu'il a appris à l'école, il n'est jamais évalué sur ça. Il est évalué à l'écrit. Et quand on a des enfants qui ont des difficultés à lire et à écrire, ils ne peuvent pas être évalués sur ce qu'ils ont appris, puisqu'on ne leur donne pas la possibilité d'apprendre par des biais différents ou à la marge. Mmh. C'est quand même assez rare, si vous voulez, dans les écoles, ça arrive. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'annonce, un effet d'annonce. L'école est inclusive, on accueille tout le monde. Et dans les faits, les enseignants ne sont pas formés, et c'est un système prof et établissement dépendant. Donc soit vous avez des enseignants très formés, peut-être par eux-mêmes parfois parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une formation dédiée, qui vont prendre le sujet à bras-le-corps. Et moi j'en ai eu des instituteurs, des institutrices super, qui ont hyper adapté, qui adaptaient pour elles, qui adaptaient pour un enfant qui était malvoyant, qui avait très très mal. Mm-hmm. Il y avait des très grandes lettres en capital avec un code couleur particulier. Pour un enfant qui était TDAH, qui autorisait, vous savez, des balles de préhension pour rester concentré, et qui adaptait et qui prenait le temps. Mais finalement, c'est assez rare. Et moi, je pense que ce serait plus intéressant de renverser entièrement ce mammouth, hein, qui est l'école aujourd'hui, et de dire, en fait, on devrait apprendre à tous les enfants de manière accessible. C'est l'accessibilité universelle des apprentissages. Puisque ce qu'on sait, c'est que ce qui est favorable à tous ces enfants avec des spécificités est favorable à tous les enfants qui ne présentent pas de neuroatypie. C'est un peu le mot à la mode aujourd'hui. Mmh. Mais en tout cas, c'est favorable au groupe classe. Donc, c'est moins fatigant pour les enseignants. Ils ont pu adapter, puisque c'est adapté pour tout le monde.
Vous avez parlé, Elvire, tout à l'heure, de deux places par classe. Ça me paraît insignifiant, déjà. Et c'est un début, me direz-vous. Mais y a vraiment, en toutes les classes, deux places réservées à ces enfants?
Non, c'est pas ça. En fait, ce que je voulais dire, pardon, c'est que il y a deux élèves par classe concernés.
Ah oui.
Il y a deux élèves minimum par classe qui présentent des troubles 10. Et donc, hors enfants qui peuvent avoir un trouble du spectre autistique ou des enfants qui peuvent avoir un trouble de l'attention.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus, Elvire. Beaucoup plus.
Probablement parce qu'il y a il y a beaucoup d'enfants aussi, c'est ce que vous disiez, qui ne sont pas forcément diagnostiqués, repérés.
Il y en a beaucoup. Je vais vous dire, je me suis fait la réflexion, en fait, à retardement, lorsque il y a à peu près 16 ans, 17 ans, avant que je commence dans les yeux d'Olivier, l'ersatz de Dans les yeux d'Olivier, qui s'appelait Nouveau Regard sur France 4, m'avait conduit dans un centre d'éducation fermé, où il y avait donc de jeunes délinquants, hein, des gamins qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et je me suis rendu compte combien de ces gamins avaient ces signes distinctifs de 10. Et que finalement, dès le début de leur vie, ils avaient été mis de côté, en fait, dans le fond de la classe, étant pris souvent pour des agitateurs ou des feignants, alors que ces gamins, on le sait, fatiguent plus vite que les autres en termes de concentration, peuvent être hyperactifs aussi, en tout cas peuvent développer tout un tas de choses accompagnant ces troubles qui font que ce sont des élèves particuliers à part auxquels il faut porter une attention particulière et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que 80 à 85% de la population française n'a pas les moyens que nous pouvons avoir lorsque nous faisons des, parce que je sais que vous êtes journaliste et que voilà vous avez comme moi un métier qui nous amène à être confronté au phénomène de société, vous voyez, à une certaine culture qui fait que on tend l'oreille, ne serait-ce que si on a ce projet d'être parent, aujourd'hui, difficile de passer à côté de ce sujet. Mais quand on est à l'usine tous les jours, ou quand on est peintre en bâtiment, tourneur friseur, ou enfin qu'on a un métier où on a la tête dans le guidon, lorsqu'on a des enfants qui ont ces troubles. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont pas pronostiqués. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas repérés. Alors, on repère mieux qu'il y a 15 ans, 20 ans. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas repérés parce que il y a plusieurs raisons. Enfin, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a des familles, dans les familles où il y a beaucoup d'enfants, enfin, il y a plusieurs enfants, où on travaille beaucoup, on prête pas tout à fait la même attention, et puis surtout, comme on connaît pas bien, et que les enseignants sont pas formés, et même les médecins sont pas toujours formés non plus, finalement, ils arrivent pas à l'école, on va dire, la première intention, c'est d'aller voir l'enseignant. On va pas voir son médecin traitant, on va dire, il arrive pas à l'école, il a du mal à lire, ou c'est l'enseignant qui va vous dire, il a du mal à lire. Dans les familles, souvent modestes, et où les familles où on parle pas très bien le français, on va mettre un peu ça, il y a un peu ce raccourci qui est fait de mettre ça sur le compte d'une famille dans laquelle on parle pas très bien français.
Exactement.
Sincèrement, ça existe encore, hein. C'est malheureux, mais ça existe encore, je trouve ça très très triste, mais ça existe. Et donc, c'est des enfants qui vont passer un peu au travers des mailles du filet, et moi, ça me rend super triste à chaque fois, parce que j'en ai vu, hein, des enfants comme ça, qui se rendent compte très tard. Ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, et ils ont été très très malheureux à l'école. Ça a été très compliqué avec les parents, surtout parfois il y a des familles où c'est super important, l'ascension sociale. Je sais pas, on est jardinier, on a envie que son enfant fasse des grandes études, on aide de payer les études, et quand on se retrouve avec un enfant qui arrive pas et que personne comprend, ça crée beaucoup aussi de douleur dans les familles. Et pour ces enfants-là, qui sont donc maintenant des adultes, ils n'arrivent jamais à trouver vraiment leur place. Ils ont beaucoup manque de confiance en eux. Et c'est des parcours un peu gâchés. C'est-à-dire que l'égalité des chances, quand on est dyslexique,
elle est
difficile, quoi. Compliqué. Ça demande beaucoup de combats. Parce que plein de gens sont pas formés, en fait. Donc les familles sont assez seules. Et il faut avoir du temps, il faut avoir de l'argent, en plus.
Il faut avoir de l'énergie aussi. Et du temps et de l'argent en plus, hein. Vous avez raison. Et tout le monde n'a pas le temps ni l'argent ni.
C'est vraiment ça, le temps et l'argent. Et puis en plus, il y a un petit truc qui se rajoute, c'est qu'il faut comprendre le jargon. C'est-à-dire qu'on est dans une société ultra jargonneuse. Et encore plus quand on est confronté à un handicap, parce que c'est un handicap de l'enfant, où là, on va se retrouver dans des institutions où, à nouveau, on va être confronté à un jargon. Je je pense aux maisons départementales des personnes en situation de handicap,
oui,
des formulaires CERFA à remplir, des noms barbares de GEVASCO, des délais à respecter, des cases à cocher. Et ça, c'est très important. Il y a plein de familles qui font les demandes, les dossiers, parce qu'il y a, ça coûte tellement cher et ça précarise tellement les familles. Je pense beaucoup aux maires, parce qu'il faut s'organiser dans l'emploi du temps quand il y a beaucoup de séances de rééducation, qu'il y a un moment, on a besoin de demander des compléments de revenus et des prises en charge, parce que ça vraiment les restes à charge, parfois c'est 500, 600 euros par mois, c'est énorme. Et ça, quand on n'est pas aidé, bah c'est très compliqué. Même aidé, on a des refus, enfin, c'est désespérant. Rien n'est fait pour aider les familles confrontées au handicap d'un enfant. Mais vraiment, hein, parce que là on parle des 10, mais un enfant qui présente une trisomie, enfin, moi j'ai rencontré une mère il y a 15 jours.
Oui.
Son enfant est trisomique. Donc, à la naissance, c'est évidemment très douloureux parce que c'est pas repéré pendant la grossesse. C'est un déchirement. Elle témoignait et elle raconte le parcours de vie avec ce petit garçon qui maintenant a 6 ans. Et elle a fait rapidement une reconnaissance de handicap auprès donc, de ces fameuses maisons départementales, les MDPH. Mmh. Et ben, c'est tous les 3 ans, je crois, elle doit refaire un dossier pour redemander la reconnaissance du handicap de son enfant. Mais tout le monde sait que la trisomie 21, c'est toute la vie.
Toute la vie. C'est débile. Oui. C'est tellement débile.
Mais oui, puis c'est très douloureux pour les familles, parce qu'il faut refaire passer des examens. L'enfant, il comprend, il est trimballé encore à des rendez-vous médicaux, mais c'est pareil pour les 10, hein, et c'est pareil pour les TDAH, et c'est pareil pour les autistes. Et les délais varient, parfois c'est 3 ans, parfois c'est 5 ans, on ne sait pas pourquoi, en plus, les règles sont complètement opaques. Mais c'est très douloureux pour les familles, et souvent il faut repayer des bilans. Moi, je trouve que c'est un système affreux.
C'est affreux.
Vraiment.
Complètement.
Vraiment. Et personne ne le sait, hein. Très peu de gens le savent. Très peu de gens le dénoncent. Finalement.
Mais oui, parce que vous voyez, pour je l'apprends pour la trisomie 21, que chaque année on devait refaire un dossier. Ça me semble tellement, mais tellement débile.
Ouais,
ça coûte de l'argent partout cette histoire.
Ouais, c'est pas tous les ans, mais même je crois que c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Mais peu importe, ça coûte de l'argent partout. Ça mobilise du temps partout et c'est douloureux. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu d'inhumain, moi, je trouve, quand même, de demander aux parents d'y retourner.
Complètement, complètement, vous avez raison. Alors, revenons à votre petite et son vécu. Donc, elle arrive en petite section, d'emblée. Comment ça se passe en petite section?
Non, ça va, c'est vraiment... franchement, là où ça devient compliqué, c'est l'OCP. Maternelle, ça va. Il y a le Covid, donc en plus c'est fermé, il y a école, il y a pas école, enfin, vous voyez, c'est pas très continu. Ouais, ça devient compliqué, vraiment une grande section quand même, ça devient un peu compliqué. Et CP là c'est pas marrant du tout. Mm-hmm. Mais l'apothéose, c'est le CE2 là. Là, elle a eu droit à la mise sur le pouf. Elle a été mise sur son
pouf. Par alors, dites-moi.
Ouais.
Racontez-moi.
Je pense pas être un cas isolé dans le sens où il y a toujours, quand vous rencontrez les familles, il y a toujours un moment où on vous dit, il y a eu des années très dures. Et étonnamment, c'est souvent soit le CE2, soit le CM1, voire le CM2 qui sortent du chapeau. Je ne sais pas pourquoi. C'est des moments, c'est des âges aussi où les enfants comprennent qu'ils sont vraiment différents. Et qui sont vraiment aussi à la traîne par rapport à ce que demande l'école. Moi, je ne considère pas que ma fille est particulièrement à la traîne. Ma fille est à la traîne par rapport à ce que demande l'école. Mais si vous l'interrogez à l'oral, elle n'est pas à la traîne. Et elle est donc mise sur le pouf par son enseignante, qui considère que soit mon enfant est trop fatigué, sachant que c'est un enfant qui s'endort très tard, soit qu'elle... je sais pas, elle ne veut pas l'interroger, en fait. Donc elle lui dit, va te reposer. Donc elle passe beaucoup de temps dans le fond de classe sur un pouf.
C'est
très dur parce que elle comprend vite que c'est une sorte de mise au ban, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas désigner plus fortement un enfant qu'en le mettant sur un pouf.
C'est pire qu'une expulsion. Parce que vous êtes au regard, vous êtes livré au regard des autres, en plus.
Ouais, et puis le pouf, hein, vous voyez, tout le monde voit ce que représente un pouf. Enfin, vous voyez, c'est un truc informe, c'est un truc lourd, c'est un truc. Ah oui, en plus, il y a un symbole, moi, je trouve, du pouf. T'as un fardeau, un peu. Il y a un peu cette idée-là de...
Mais t'as un colis qu'on sait pas où ranger, quoi.
Ouais, donc, Donc voilà, ça a été une année difficile, vraiment douloureuse, enfin très très difficile. Moi, ma fille a fini en béquille hein, quand même, alors qu'elle n'avait rien de testé.
Vous, vous lui êtes pas rentré dedans, là, parce que...
Oui, pardon, bien sûr, oui, j'oublie de le dire.
Vous avez raison, ouais, j'y suis allée
deux fois. Non, non, bien sûr. Non, j'y suis... Ben, en fait, assez vite, on a compris, notamment, parce que c'est une enfant qui bénéficie d'aménagement, comme plein d'enfants, oui. En fait, pour que l'école s'adapte.
Oui. Elle a eu une AVS, en fait,
Non, elle a pas eu d'AVS. Elle avait un PAP, un plan d'accompagnement. L'AVS, elle voulait pas, en fait, elle voulait pas avoir quelqu'un avec elle.
D'accord.
Et, voilà, je m'étais dit, on va attendre un peu. Mais elle avait un plan d'accompagnement personnalisé qui devait être respecté. Et quand il y a des plans d'accompagnement personnalisés, c'est quand même des recommandations faites par des professionnels de santé. C'est pas que les parents qui disent. Donc, et en fait, tout de suite, moi, j'ai compris qu'elle écouterait pas et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, qu'elle serait un peu butée. Et c'est ce que m'a dit l'orthophoniste qui connaît très bien ma fille, et que je connais maintenant très bien parce que je la vois quand même.
Ah oui.
Et elle m'avait dit en sortie, cette fameuse réunion, elle m'avait dit, bon courage. Et ça a donné le là de l'année. Et non, ça a été. Donc, ouais, je suis allée la voir, et je suis allée la voir deux fois. Et en fait, je dis que c'est une très très grande séductrice. Je l'appelle la maîtresse séductrice parce que elle vous entoure, vous vous dit oui, elle a une petite voix très mièvre et tout ça. Oui, je vais le faire. Bon, elle a jamais rien fait et elle a jamais écouté. Et finalement, j'avais écrit à l'inspection de l'académie, je me rappelle. Mais bon, il s'est rien passé quoi. Mais je l'ai changé, hein. Je l'ai sorti de l'école classique. Dans une école spécialisée, là. C'était trop dur.
Mais oui, parce que de toute façon, vous allez toujours tomber ou sur une maîtresse qui comprend rien, mais qui va donc la mettre sur le pouf, ou une autre qui carrément va vous dire, mais votre fille, vous inquiétez pas, les enfants ont leur rythme, ils poussent comme ça, pas pareil. Souvent, les parents, vous vous inquiétez, alors qu'elle n'y connaît rien, en fait. Elle n'y connaît rien.
Ouais.
Elle parle comme ça dans le vide pour vous entourlouper plus qu'autre chose. Et c'est on va dire que je suis pas très tendre, hein, parce que mais c'est pas ça. J'ai des amis qui sont profs, instit. Je sais que c'est un métier difficile, mais aujourd'hui, quand on fait ce métier-là, on ne peut plus ignorer qu'il y a des mômes qui sont en souffrance. Donc c'est inacceptable de ne pas faire et signaler, même si un enfant ne suit pas, s'il n'a rien à faire là, suivre une autre formation quand il a 14-15 ans, mais il y a encore un nombre de profs qui sont complètement dans les choux par rapport à ça, je trouve.
Ouais, non, puis surtout que finalement, enfin, ce que vous dites, ils savent pas, ils sont pas forcément formés, mais en fait, reconnaissez-le, vous savez pas, vous êtes pas formés, mais quand vous avez des recommandations, moi, c'est ça qui me met très, très fortement en colère, parce que je me dis, mais quand même, il y a des recommandations de professionnels de santé qui voient l'enfant, c'est quand même des moments difficiles pour les familles. Enfin, ces fameuses réunions. Pour moi, en tout cas, c'est des moments difficiles d'être avec le directeur de l'établissement, la directrice de l'établissement, le maître ou la maîtresse, l'équipe médicale qui est là. Souvent, il y a le médecin scolaire ou le psychologue scolaire qui a vu l'enfant. Donc, vous voyez, on est quand même projeté dans une dimension qui est complexe à accepter en tant que parent. Et moi, il m'a fallu un temps quand même. Mm-hmm. Et quand on a tous les professionnels de santé, donc, qui ont vu votre enfant un peu sous toutes les coutures, c'est quand même des enfants qui sont trimballés. Très souvent, très petit, il y a quand même un truc de l'enfance. Pas voler, faut pas exagérer, mais c'est difficile quand même pour eux. Ils vont pas au parc comme leurs copains en sortie de classe. Ils vont pas prendre le goûter chez la copine. Ils vont chez l'orthophoniste ou ils vont passer un bilan.
Ils sont souvent très seuls, ces enfants. Je ne sais pas comment c'est pour votre fille, mais...
Oui, ouais. Si. Moi, elle peut être très seule ou elle peut se fâcher avec les autres parce que elle a son caractère ou parce qu'elle est ultra sensible. Donc
mais
c'est
parce que ces troubles forgent un caractère compliqué aussi parfois. Souvent même.
Ouais, je pense qu'en plus ça, parce qu'ils sont quand même dans un combat aussi.
Bien sûr.
C'est quand même très 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 désarmant de se dire moi je sais répondre mais je sais pas répondre à l'écrit.
Mm-hmm.
Enfin, ça doit être c'est compliqué. Et donc non, moi je trouve que les enseignants parce que je pense que vraiment beaucoup aimeraient être formés mais il faut juste écouter en fait. Moi ma colère elle était un peu là quand même en de dire mais en fait si on vous dit qu'il faut pas la mettre sur un pouf, vous la mettez pas sur un pouf. Si on vous dit qu'elle peut apprendre 8 mots mais pas 10 mais à la perfection parce qu'elle est capable en fait, il faut le faire. Ah non, je vois bien qu'elle fatigue. Non mais en fait, je sais pas. Et puis voilà, c'est une enfant bien qui est astucieuse. Donc mais... oui, puis bien sûr qu'elle fatigue, mais évidemment qu'elle fatigue, mais il y a des moments où ils contournent aussi. Ils sont très malins, hein, pour contourner, certains.
Ils sont très malins pour contourner, et puis, je vais vous dire, l'éducation nationale étant ce qu'elle est, le système, hein, faisant passer aujourd'hui les enfants d'une classe à l'autre sans se poser vraiment trop de questions, finalement, puisque je crois qu'aujourd'hui, on redouble plus, il me semble. Finalement, quand il y en a un qui est à la traîne, bon, il y a beaucoup de profs qui laissent tomber complètement. Au-delà du fait que ces enfants sont souvent harcelés, est-ce que ça a été le cas de votre fille ?
Moi, elle a été chahutée. Oui, alors ça c'est vrai. Enfin, elle a été chahutée l'an dernier. Ouais. C'est vrai.
Ouais,
elle a été chahutée. Après, c'est une enfant qui cache beaucoup. Donc, c'est final. Ouais, elle a bah, vraiment le déclencheur. Enfin, vraiment, je suis sûre. Bah, mon enfant qui est du mois de juin, ma fille. Et donc, pour ses 9 ans, elle était en béquille et elle avait rien. Et ça, quand on est parent, enfin.
Ouais,
c'est dur parce qu'on a fait tous les examens qu'il fallait faire. Mais vraiment. Et c'est psychologique. Et là, vous vous dites, d'accord, ça va. Et voilà, elle m'a dit, moi, je ne peux pas aller à l'école sans béquille. Bon, là, vous vous dites, elle a 9 ans, qu'est-ce que ça va être sa vie, en fait? Ça, c'était très douloureux pour moi. Mmh. Vraiment très difficile, cet anniversaire.
Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez encore vivre des moments comme cela. Vous allez encore en vivre beaucoup, mais il faut faire confiance à votre enfant. Il faut parce qu'à un moment, elle trouvera se heurter hein, aux autres hein, parce que les enfants à cet âge-là, il y a rien de pire que les cours d'école. Vous savez, moi parfois, je m'arrête devant une cour d'école et je regarde le monde en action, le monde de demain. Parce qu'une cour d'école, c'est souvent très révélateur, même de ces petits chérubins d'éducation qu'ils reçoivent même à la maison.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous.
Moi, quand j'allais chercher ma fille à l'école, je m'amusais à déjà profiler les parents de certains élèves que j'avais vus se comporter bizarrement, en tout cas pas très gentiment. Mmh. Et les chats font pas des chiens. Donc du coup, je me trompais, pas souvent. Mais il n'y a rien de plus violent qu'une cour d'école, surtout à 9 ans, 10 ans. Et ça peut être très dur à ce moment-là. Donc, le fait de mettre votre enfant dans le privé aujourd'hui, c'est très important. Parce que, malgré tout, même si elle va affronter des situations compliquées, dans le privé, il y a quand même une attention particulière. Hein. Aujourd'hui, les écoles, je pense à certaines écoles catholiques, parce que j'ai quelqu'un de très proche de moi qui... a vécu ce parcours du combattant. Je sais qu'à partir du moment où il a mis son fils dans une école privée, ça a quand même changé beaucoup de choses pour le petit. Déjà,
ouais.
Il avait de la dyscalculie, dyspraxie, dysphasie.
Ouais.
Il était assez proche du profil de votre enfant. Donc déjà, le privé c'est très important. Et puis après, une attention, je dirais. De tous les jours par rapport au prof, quoi. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire, il faut pas avoir peur de dire au prof d'emblée à la rentrée, voilà, ma fille souffre de ça, elle a tel trouble, parce que je crois que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas encore une formation assez poussée pour que les profs qui ont déjà un boulot difficile, même dans le privé, hein, soient armés eux aussi, parce que c'est un métier difficile aussi. Voilà, votre fille, elle va pousser et puis elle va grandir et puis elle va. Il faut lui faire confiance de toute façon. Bon, généralement, les parents sont les plus confiants. Hein. C'est sûr qu'il est...
Ouais, je suis d'accord. Non, moi, j'ai confiance, je suis assez confiante. Je me dis qu'elle, finalement, c'est difficile, mais elle a plutôt de la chance aussi, pour tout un tas de raisons. Mais après, ce que vous dites, c'est vrai, il faut pas hésiter à aller voir les... Enfin, je suis d'accord, vraiment, avec vous, il faut aller voir les profs et tout ça, il faut expliquer. Mais il y a un truc, quand même, au collège, c'est multiplié par je sais pas combien de profs. Et moi, je trouve qu'il y a un truc, parfois, contre nature, en fait, de voir se battre en permanence. Enfin, je trouve que c'est difficile, moi. Je trouve ça dur.
Obligatoirement, de toute façon, c'est ce pays hein, qui globalement est totalement en retard. Donc
par rapport au Canada, complètement.
Vous allez toujours vous heurter à, même avec des personnes de bonne volonté, que c'est quand même, vous connaissez votre enfant, donc vous avez vu l'ampleur du problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce petit bout, comme plein d'autres petits bouts qui ont ces troubles 10, eh bien, à 9 ans, 10 ans, elle pousse, elle va avoir 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et ce qui équivaut à ces années de construction. Et on sait que dans ces années-là, très importantes dans la définition de ce que notre personnalité va être, notre caractère, le futur adulte que nous serons, eh bien, on peut très vite se choper des blessures qui seront difficiles à faire cicatriser. J'écris en ce moment sur le syndrome de l'imposteur et j'évoque combien c'est important de protéger nos enfants à cette époque-là, parce que nos fondations se renforcent à ce moment-là, et ça sera très compliqué après. En tout cas, ça nécessitera un gros travail si elles n'ont pas été posées, construites de manière solide. Et malheureusement, ces enfants-là prennent plus de coups que les autres, et donc sont plus enclins à développer des profils avec des séquelles, on va dire, qu'ensuite dans la vie d'adulte il faudra qu'ils travaillent. Donc je pense que tous les parents qui nous écoutent ce soir ne doivent pas avoir la moindre hésitation lorsqu'il faut protéger son enfant et parler au prof et le mettre en garde, parce que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a parlé de MDPH tout à l'heure, on parle de handicap, et que aujourd'hui, lorsqu'un enfant harcelé, mais que c'est un enfant handicapé qui est harcelé, c'est beaucoup plus grave. Voilà, c'est juste mettre un petit peu la puce à l'oreille des parents, de dire vous avez des droits, et l'école le sait parfaitement. Donc, il faut pas hésiter à les protéger, ces petits bouts, parce qu'ils sont fragiles.
Oui, c'est vrai.
Vous avez écrit, hein, je crois, oui, vous avez écrit l'Odyssée des 10 chez Stock.
Oui, exactement.
Cette Odyssée, c'est votre histoire ?
Oui, exactement, c'est mon histoire de la naissance de mon enfant jusqu'aux béquilles. Mm-hmm. Justement, donc j'ai fini d'écrire le 30 juin de cette année. Et il y a toute une enquête aussi. Et puis il y a des portraits, ce que vous me dites sur le syndrome de l'imposteur, en fait, tous les gens qui ont témoigné, il y a des gens connus et des gens pas connus.
Oui.
Ce qui était une volonté, hein, qui n'est pas que des gens connus, parce que je trouve que c'est... Tout le monde n'a pas des grands parcours de réussite. Et c'est pas du tout grave. Mm-hmm. Voilà. L'essentiel, c'est que nos enfants soient heureux et qu'ils aient un petit peu confiance en eux. Mm-hmm. Et c'est vrai que tous, ils ont quand même un syndrome de l'imposteur qui s'est logé dans les souvenirs de l'école.
Des gens qui vous parlent dans votre livre L'Odyssée des 10 chez Stock, des gens connus et moins connus, mais qui rapportent tous leurs mots à l'école, globalement.
Oui, c'est ça, parce que ils ont tous un souvenir de classe où ils n'y arrivent pas, mais ce souvenir de classe, il se répète. Beaucoup ont été humiliés. Mmh. Il y a Thomas Legrand qui témoigne, hein, qui est dyslexique et dysorthographique, qui raconte que voilà, quand on il a toujours moins 20, moins 30 en dictée, et que voilà, on peut se moquer quand même de lui.
Oui.
Et d'ailleurs il dit que quand il bute sur un mot, aujourd'hui, avec la carrière qu'on lui connaît, il a l'impression d'être un tétraplégique qui prend la course du 100 mètres. Il a un syndrome de l'imposteur vraiment très marqué encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et tous racontent ça, que l'école a été un endroit. Il y a Athénaïs qui est illustratrice, elle, qui dit, mais moi, c'est la fabrique du sentiment d'échec. Elle emploie cette image, je trouve que c'est une image très juste finalement, puisque enfin, pour tous ces enfants et ces adultes, ça les poursuit de se dire je suis nul, je suis pas bon, je suis zéro, je vaux ma note, je vaux 4 sur 10, 3 sur 10,
oui.
J'y arriverai jamais. Et puis certains ont été harcelés. Il y a le témoignage d'un petit garçon, enfin d'un jeune adulte maintenant qui a 17 ans, qui s'appelle Sacha, qui a été harcelé, mais harcelé au collège à tel point que ses parents ont créé une école alternative. C'est dans le